Jacques Addy, la radio du lycée Prévert.
Nous nous retrouvons en cette fin de journée qui nous rapproche toujours un peu plus des fêtes. Nous allons donc terminer cette journée radio par une émission un peu plus féerique en vous parlant des contes de fées. Un petit retour en enfance avant les vacances. Nous allons donc tenter d'enlever les paillettes, le côté magique des contes, pour en mesurer les enjeux profonds.
Il était une fois, en plein hiver, quand les faucons descendaient du ciel comme des plumes et du duvet, une reine qui était assise et posée devant une fenêtre qui avait un encadrement en bois d'ébène.
Approcha en tremblant et en admirant, et se mit à genoux auprès d'elle. Alors, quand la fin de l'enchantement était venue, la princesse s'éveilla, et, le regardant avec des yeux plus tendres qu'une première vue semblait le permettre.
Ma mère grand que vous avez devant moi, c'est pour mieux t'embrasser, ma fille. Ma mère grand que vous avez de grandes jambes, c'est pour mieux courir, mon enfant.
On la mena chez le jeune prince, parée comme elle était, et, peu de jours après, il l'épousa. Cendrillon, qui était bonne.
Marque-page, l'émission qui interroge votre rapport à la lecture.
Commençons par une intervention d'Elisa qui va amorcer une définition sur les contes.
En passant de la mythologie antique aux œuvres actuelles, l'humain n'a eu de cesse, durant son développement, d'imaginer, de construire des histoires plus ou moins effrayantes, plus ou moins féeriques. Et justement, comme l'a si bien dit Chloé, nous allons plus précisément nous intéresser aux contes de fées. C'est-à-dire aux courts récits d'aventures ancrés dans le folklore et les traditions qui mettent en scène des personnages merveilleux et symboliques dans le but d'instruire en amusant. Les contes sont tous extrêmement anciens. En domestiquant le feu, il y a 400 000 ans, l'Homo erectus a trouvé des activités pour rester éveillé alors qu'il devait l'entretenir toute la nuit. Et lorsqu'il y a environ 300 000 ans, l'Homo sapiens a dompté son imagination, il a ainsi pu imaginer puis narrer les premières histoires de l'humanité. Ensuite, profitant du fait qu'il était encore nomade, ses récits se sont propagés, puis se sont dissociés et ont continué à évoluer séparément après la sédentarisation de l'espèce humaine. Ainsi, il existe au moins trois versions du conte de Barbe Bleue. En Russie, le gentilhomme est un ours. En Inde, c'est un tigre déguisé en brahmane. Toutefois, malgré ces légères divergences, la base de l'histoire reste la même. Il s'agit d'un être plutôt maléfique et effrayant, mais tout de même assez séduisant, dont les femmes successives disparaissent mystérieusement les unes après les autres, jusqu'à ce que notre héroïne le confonde et le fasse disparaître à son tour, avec l'aide de ses frères dans la majorité des versions. Mais d'ailleurs, si le conte de Barbe Bleue vous parle, c'est notamment grâce à des auteurs célèbres tels que Perrault ou les frères Grimm qui ont sillonné les provinces afin de recueillir les versions orales des contes et de les retranscrire à l'écrit. Ce processus a débuté au milieu du XVIe siècle, puis s'est propagé jusqu'à la première moitié du XIXe. Et puis, les acteurs majeurs de ces retranscriptions sont emblématiques, à l'instar de Perrault et des frères Grimm, mais ils ne sont évidemment pas les seuls. De nombreux autres ont effectué un travail similaire, et certains ont même inventé des contes, comme Andersen, auteur de La Petite Sirène notamment. Cependant, ces écrivains n'écrivaient pas par charité non plus. En effet, Perrault se sert des contes comme de leçons de vie, destinées à l'éducation des jeunes filles, en ajoutant explicitement des morales à la fin. Les frères Grimm, quant à eux, utilisent les contes afin de raffermir l'identité nationale de leur pays, l'Allemagne, en plus d'éduquer les jeunes. Enfin, depuis l'écriture des contes, la société et les mentalités ont énormément évolué, ce qui a remis en question les morales de ces textes et engendré de nombreuses discussions. Toutefois, on en connaît tous un certain nombre. Vous avez des exemples ?
Cendrillon.
On a aussi Blanche-Neige.
La Belle au Bois Dormant.
Hansel et Gretel.
Le Petit Chaperon Rouge.
Alice au Pays des Merveilles.
La Princesse et la Grenouille.
Peau d'âne.
Réponse.
Le Petit Poucet.
Boucle d'or et les trois ours.
Ma petite fille aux allumettes.
Bon, je pense que maintenant on a compris qu'on en connaissait tous un certain nombre.
Maintenant qu'on sait ce que c'est qu'un conte, nous allons aborder ses caractéristiques. Qu'est-ce qui commence ? Est-ce que par exemple vous pouvez nous parler des lieux dans lesquels se passent les contes ?
Alors les contes, souvent ils se passent dans la forêt, c'est le cas pour Hansel et Gretel, mais aussi pour Blanche-Neige. Après, généralement, il y a un château, comme bah, pour La Belle au Bois Dormant, ce château il est mythique. Pour Cendrillon aussi, après bah, c'est pas toujours le cas. Ça peut être aussi des maisons qui sont un peu recluses, un peu éloignées, donc bah, comme pour Hansel et Gretel.
Aussi, pour revenir sur ce que disait Soline, souvent la forêt va soit être très accueillante, comme dans la version notamment Walt Disney de Blanche-Neige, ou alors elle va être vraiment assez obscure, assez méchante, comme par exemple dans La Belle au Bois dormant, où on remarque qu'il y a les ronces, etc., qui entourent le château.
Alors que par exemple, le palais, ce sera plus pour montrer le statut social et une vie heureuse, on va dire, à la fin du compte.
Qu'en est-il du temps dans auquel se passe l'histoire? Parce qu'il n'y a pas forcément de cadre temporel défini. Qu'est-ce qu'on peut en dire?
Alors, généralement, en termes de cadre temporel, les princesses, les jeunes filles, elles sont souvent plutôt jeunes, limite sorties d'adolescence, alors que les futurs princes, les hommes, sont un peu plus âgés. Ça, c'est un peu un stéréotype de ces contes.
Après, même en dehors de l'âge des personnages, au final, tous les contes, ils commencent de la même façon, par « il était une fois ». Donc ça montre que c'est vraiment très très global et qu'on n'a aucune indication, si ce n'est parfois les 100 ans du sommeil d'Aurore ou ce genre de choses.
En fait, le seul cadre temporel qu'on a, c'est un peu ce que les écrivains de contes ont eux-mêmes en fait comme repère. Donc ça va être souvent les architectures, le style du XVIe siècle, qu'on va retrouver dans ces contes-là, qui sont du coup pas ceux du XXIe siècle, mais en soi, en fait, les conteurs s'inspirent de la réalité pour essayer de faire un cadre temporel assez flou pour qu'au final, tout le monde puisse se retrouver dans ce cadre.
Et en rebondissant là-dessus, donc cette histoire de château, de princesse, c'est souvent un petit peu rose, un petit peu paillette. Est-ce que les contes ne sont pas un peu trop manichéens? On va commencer par, je pense, pour répondre à cette question, la lecture de Maureen. Donc Cendrillon et Blanche-Neige.
Il était une fois un gentilhomme qui épousa en seconde noce une femme, la plus hautaine et la plus fière qu'on eût jamais vue. Elle avait deux filles de son humeur et qui lui ressemblaient en toutes choses. Le mari avait de son côté une jeune fille, mais d'une douceur et d'une bonté sans exemple. Elle tenait cela de sa mère, qui était la meilleure personne du monde. Les noces ne furent pas plus tôt faites que la belle-mère fit éclater sa mauvaise humeur. Elle ne put souffrir les bonnes qualités de cette jeune enfant qui rendait ses filles encore plus haïssables. Elle la chargea des plus viles occupations de la maison. C'était elle qui nettoyait la vaisselle et les montées, qui frottait la chambre de madame et celle de mesdemoiselles, ses filles. Elle couchait tout en haut de la maison, dans un grenier, sur une méchante paillasse, pendant que ses sœurs étaient dans des chambres parquetées où elle avait des lits des plus à la mode, et des miroirs où elle se voyait depuis les pieds jusqu'à la tête. La pauvre fille souffrait tout avec patience et n'osait s'en plaindre à son père, qui l'aurait grondée, parce que sa femme le gouvernait entièrement.
Donc comme disait Daphné, on voit bien qu'il y a deux types de personnages dans cette histoire, les sœurs, la belle-mère, qui ont l'air... Enfin, qui sont présentées comme des personnages vraiment méchantes, tandis que Cendrillon semble être un peu l'esclave de la maison, la victime, donc la personne qui est caractérisée comme plutôt gentille. Donc là, on voit vraiment la vision manichéenne dont parlait Daphné que révèlent les contes.
On va maintenant passer à l'extrait de Blanche-Neige, lu par Maureen.
Il était une fois, en plein hiver, quand les faucons descendaient du ciel comme des plumes et du duvet, une reine qui était assise et cousée devant une fenêtre, qui avait un encadrement en bois d'ébène, noir et profond. Et tandis qu'elle cousait négligemment, tout en regardant la belle neige au dehors, la reine se piquait le doigt avec son aiguille et trois petites gouttes de sang tombèrent sur la neige. C'était si beau, ce rouge sur la neige, qu'en le voyant, la reine songea « Oh, si je pouvais avoir un enfant aussi blanc que la neige, aussi vermeil que le sang et aussi noir de cheveux que l'ébène de cette fenêtre !» Bientôt, après elle, elle eut une petite fille qui était blanche comme la neige, vermeil comme le sang et noir de cheveux comme le bois d'ébène. Et Blanche-Neige fut son nom à cause de cela. Mais la reine mourut en la mettant au monde. Au bout d'un an, le roi prit une autre femme qui était très belle, mais si fière et si orgueilleuse de sa beauté qu'elle ne pouvait supporter qu'une autre la surpassât. Elle possédait un miroir magique avec lequel elle parlait quand elle allait s'y contempler. « Miroir, gentil miroir, dis-moi, dans le royaume, qui est la femme la plus belle ?» Et le miroir lui répondait « Vous êtes la plus belle du pays, madame. » Alors la reine était contente, car elle savait que le miroir disait la vérité. Blanche-Neige, cependant, grandissait peu à peu et devenait toujours plus belle. Et quand elle eut 7 ans, elle était belle comme le jour et bien plus belle que la reine elle-même. Et quand la reine, un jour, questionna son miroir, « Miroir, gentil miroir, dis-moi, dans le royaume, quelle est de toutes la plus belle ?» Le miroir répondit, « Dame la reine, ici vous êtes la plus belle, mais Blanche-Neige l'est 1000 fois plus que vous. » La reine sursauta et devint jaune, puis verte de jalousie. À partir de cette heure-là, elle ne pouvait plus voir. Blanche-Neige, sans que le cœur lui chavirât dans la poitrine, tant elle la haïssait, l'orgueil poussa dans son cœur avec la jalousie, comme pousse la mauvaise herbe, ne lui laissant aucun repos, ni de jour, ni de nuit. Elle appela un chasseur et lui dit « Tu vas prendre l'enfant et l'emmener au loin dans la forêt. Je ne veux plus la voir devant mes yeux, tu la tueras et tu me rapporteras son foie et ses poumons en témoignage. »
Donc là encore, on voit bien la vision très manichéenne de ce conte, avec Blanche-Neige qui est présentée comme plutôt gentille, innocente, un peu victimisée comme Cendrillon, et la reine qui, quant à elle, semble vraiment méchante, qui est prête à tout pour être la plus belle du royaume.
Cependant, il ne faut pas oublier que là, on est sur les contes donc plutôt européens. Cependant, si on élargit plus loin, et notamment en Russie, on trouve par exemple les Baba Yaga, qui sont des sorcières, qui sont vraiment méchantes, mais qui en même temps aident fréquemment les héros et les héroïnes en leur offrant ce dont ils ont besoin pour réussir leur quête.
Donc après avoir abordé la vision, cette vision manichéenne des contes, passons aux personnages.
Alors tout d'abord, donc, les personnages sont soit des hommes, soit des femmes. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on remarque que les femmes sont souvent décrites avec des qualités morales. Donc elles étaient intelligentes, etc. Les hommes sont beaucoup plus définis avec des qualités physiques.
Tu disais que donc, dans les contes, il y avait surtout des hommes et des femmes. Est-ce qu'on pourrait élargir un petit peu? Parce que dans mon souvenir... Il y a aussi des créatures fantastiques, par exemple dans La Belle et la Bête, il y a une bête. Je pense aussi à un conte un peu moins connu qui s'appelle Le Nain Tracassin, ou Présence d'un Nain.
Alors il y a plusieurs études qui ont mené justement sur les personnages, et il s'avère que selon les auteurs, bien sûr, la majorité des personnages est féminine, avec, comme tu le disais, 2% de personnages qui sont ni des hommes ni des femmes. Donc rarement androgynes, mais en tout cas un peu à part dans la classification. Et en plus, il faut remarquer que à chaque fois, les femmes sont définies, sont les héroïnes d'ailleurs, elles ont des prénoms, elles ont des fonctions, enfin elles servent un peu à quelque chose et elles font avancer l'histoire, parfois même par des biais peut-être un peu rabaissants, mais peu importe. Et les hommes, quant à eux, sont uniquement définis par leur classe sociale, donc c'est le prince, il n'y a même pas de déterminant en fait devant, enfin défini, et donc ça généralise vraiment le fait que les hommes, au final, oui, ils sont présents dans les contes, mais ils servent juste à servir les intérêts de l'héroïne.
Après, tu disais que les femmes étaient nommées dans les contes, elles sont surtout nommées de par leurs caractéristiques physiques, enfin Belle, Blanche-Neige, c'est pas des prénoms qu'on donnerait aujourd'hui, c'est des prénoms qui sont difficiles à réutiliser, c'est vraiment spécifique aux contes. Donc, c'est vrai que les hommes sont pas forcément nommés, mais les femmes... je ne sais pas si c'est vraiment mieux, puisqu'elles sont nommées de par leur physique, de par leurs caractéristiques, et pas vraiment pour ce qu'elles sont, mais plutôt pour ce qu'elles représentent.
C'est vrai, c'est tout à fait exact. Après, il y a quand même quelques exceptions. La Belle au Bois Dormant s'appelle Aurore. Dans un conte italien écrit bien avant cela, au XVIe siècle, par Basile, Cendrillon s'appelle Zezola, de naissance.
Après, le fait de ne pas nommer aussi les personnages, ça peut rejoindre l'idée de intemporalité, un petit peu dans, en quelque sorte, avec le « Il était une fois », on a dit qu'il y avait, ça permettait à tout le monde de se représenter dans l'espace-temps. Et bien, le fait de ne pas nommer les personnes, soit par leur, statut social, soit par leur apparence physique, peut-être c'est un petit peu dénigrant, mais en même temps, ça permet aux enfants à qui on lit ses contes de se représenter ces personnages et de pouvoir se visualiser en eux, justement, puisqu'ils n'ont pas de caractéristiques singulières.
Je trouve que l'évolution des contes aujourd'hui, ça évolue justement de ce côté-là, parce que, par exemple, dans La Reine des Neiges, qui est un conte qui est beaucoup plus récent, je ne sais pas si on peut vraiment qualifier ça de conte, mais c'est quand même, ça reste un Disney. Là, les personnages ont vraiment des prénoms avec Elsa et Anna, alors que ce que je disais, la Blanche-Neige, c'est pas un prénom qu'on réutiliserait aujourd'hui.
Pour rebondir là-dessus, je pense que Disney a réadapté Blanche-Neige parce que dans mon souvenir, la première histoire de Blanche-Neige, la reine qui est une méchante s'appelle juste Blanche-Neige ou la reine des neiges, quelque chose comme ça, mais elle n'a pas de prénom.
On va maintenant passer à la chronique d'Elisa sur le schéma narratif et le schéma actentiel.
Il était une fois, dans un temps révolu, dans un pays disparu, le premier orateur, puis le premier auteur de contes de fées. Leur identité importe peu. Ce qui compte, c'est leur façon de créer les contes. En effet, qu'elles soient retranscrites à l'écrit ou encore à l'état de tradition orale, toutes ces histoires s'organisent de la même manière et narrent plus ou moins les mêmes aventures. Tout d'abord, rappelez-vous de vos cours de français. Tous les récits suivent un schéma narratif similaire. Lorsque l'on commence la lecture, on découvre la situation initiale, où tout se passe bien dans le meilleur des mondes. Ensuite, survient un élément déclencheur qui sème la zizanie en engendrant de nombreuses péripéties, au bon vouloir de l'auteur et de sa motivation du moment, puisque plus il y a de rebondissements, plus il y a de pages, évidemment. Enfin, le héros ou l'héroïne parvient à se dépêtrer des nœuds dans lesquels ses aventures l'ont précipité, et tout se conclut avec la situation finale, souvent similaire à la situation d'énonciation, avec seulement quelques morts en plus, un méchant en moins et souvent un mariage à la clé.
Ah, donc par exemple, avec Cendrillon, on a la partie où tout va bien quand la mère est encore en vie et qu'ils sont heureux pour la situation initiale. Quand sa mère meurt, c'est le moment déclencheur. Les péripéties, c'est l'arrivée de la belle-mère et les belles-sœurs, puis le bal. Et le dénouement, c'est quand le prince lui remet sa chaussure et qu'il se marie. Et enfin, la situation finale, c'est quand on voit Cendrillon mariée et devenue princesse.
C'est tout à fait ça. Cependant, ce n'est qu'une des nombreuses organisations fonctionnelles des contes, et surtout la plus générale, simple et accessible. En effet, d'autres ont été mises au point au fil des années. En 1928, le linguiste russe Vladimir Prop publie « Morphologie du conte », une analyse détaillée des contes merveilleux dans laquelle il identifie pas moins de 31 motifs. Tous sont récurrents, mais pas toujours présents dans les contes. Par contre, son étude est extrêmement précise puisqu'elle se fonde uniquement sur un type de conte populaire en Russie où le héros tue un dragon. Ce n'est pas valable partout. Quelques années après, en 1960, le linguiste lituanien Grémas propose une autre organisation des contes beaucoup plus globale, le schéma actentiel, qui est entièrement fondé sur les dynamiques et les relations entre les personnages. Le personnage principal doit y mener à bien une quête donnée par le destinataire à l'adresse du destinataire. Et pour cela, il est aidé par des adjuvants, tandis que des opposants veulent l'en empêcher.
Si on reprend l'exemple de Cendrillon, on a Cendrillon qui est l'héroïne. Son objectif, c'est le mariage dont le prince est le destinataire. Elle est aidée par sa marraine, la bonne fée, qui est donc une adjuvante. A contrario, c'est la belle-mère qui va tout faire pour l'en empêcher et son opposante.
Exactement. Néanmoins, l'étude la plus complète faite à propos des contes est la classification ATU, créée en 1910 par Arne, puis enrichie au fur et à mesure par Thomson et Hutter. Au lieu de disséquer les contes, ils les considèrent dans leur globalité et les trient selon leur thème principal. L'élément AT310, par exemple, représente la jeune fille dans la tour. Bon, vous vous en doutez, ça concerne surtout Réponse. Ainsi, vous l'avez vu, il existe de nombreuses organisations fonctionnelles des contes qui ont évolué au fur et à mesure des années et de leur reconnaissance.
Écoutez.
Écoutez.
C'est les lycéens de Prévert qui l'ont fait.
L'atelier média. S'exprimer pour comprendre.
Pourrait-on désormais aborder une lecture psychanalytique, notamment avec la lecture de Bettelheim ?
Bettelheim explique que les contes préparent les enfants au monde sur un plan inconscient, puisqu'ils sont anciens et universels. Contrairement à Disney, très porté sur les histoires de cœur, Bettelheim considère que les contes de fées ne parlent pas d'amour romantique. Leur vrai sujet serait les conflits familiaux. Selon lui, les contes permettent aux enfants de surmonter plusieurs thèmes, donc notamment la rivalité fraternelle. Un enfant jaloux de sa fratrie peut s'identifier à Cendrillon, injustement rabaissé par ses sœurs. Lorsque son mérite est reconnu par le prince, malgré ses haillons, l'enfant est rassuré par sa propre valeur. Un autre thème, c'est l'angoisse de la séparation. Hansel et Gretel sont abandonnés par leur mère qui ne peut plus les nourrir. En tentant de revenir chez eux, ils échouent car ils régressent. Ils doivent dépasser leur sorcière pour rentrer triomphants. Il y a également les conflits avec un parent. Donc l'enfant divise la figure maternelle entre une mère aimante disparue qu'il peut continuer à aimer et une méchante belle-mère sur laquelle il projette sa colère. Le dernier thème qui est souvent abordé, c'est les complexes oedipiens. Donc la belle-mère de Blanche-Neige est jalouse de la sexualité naissante avec de sa fille qui devient une rivale. Ou bien est-ce Blanche-Neige qui entre en compétition pour l'amour de son père, projetant sur elle sa jalousie.
Merci Soline pour cette introduction à la psychanalyse des contes. J'aimerais à mon tour vous parler du conte Les Trois Petits Cochons, qui selon Bettelheim parle du principe de plaisir contre le principe de réalité. Ce conte nous apprend qu'on ne doit rien prendre à la légère ni être paresseux. Donc si vous vous en rappelez bien, en fait c'est l'histoire de trois petits cochons et chacun construit sa maison, le premier en paille, le deuxième en brindille et le troisième en briques. Et un loup va essayer de venir les manger en soufflant sur les maisons. Il arrive à détruire les deux premières, mais pas la dernière, celle en briques. Ces trois maisons représentent le progrès de l'homme dans l'histoire, donc qui passe de l'homme des cavernes primitifs à un monde plus moderne. Les cochons construisent leur maison sans soin le plus vite possible pour profiter de leur journée, même si le deuxième est un peu plus mature que le premier et construit sa maison en brindilles qui est un peu plus solide que la paille. Ainsi, l'enfant comprend par ce conte qu'en développant son intelligence, il pourra battre ses adversaires, même plus forts que lui. Et le loup est la projection de la méchanceté de l'enfant. Contrairement aux autres contes, le plus jeune n'est pas victorieux, car il est immature, et c'est donc celui qui a construit sa maison en briques, le plus âgé, qui sort vainqueur dans cette histoire. L'enfant s'identifie tour à tour à chaque cochon et comprend qu'on doit passer par plusieurs formes précoces d'existence avant de devenir mature. Chloé, aimerais-tu nous parler de ta lecture de Bettelheim ?
Alors oui, moi j'aimerais bien revenir sur La Belle au bois dormant. Donc pour Bettelheim, La Belle au bois dormant est un peu un conte qui permet aux enfants de comprendre, de se représenter au moment de la puberté. En effet, il explique que dans La Belle au bois dormant, lorsque l'horreur se retrouve plongée dans un sommeil de 100 ans, cela représente le comportement des filles quelques mois avant leurs règles, qui vont avoir tendance à se renfermer sur elles-mêmes et à rester un petit peu dans un cercle assez privé, assez restreint d'amis, selon Bettelheim. Aussi, il explique le comportement des jeunes garçons qui vont avoir tendance, avant leur puberté, à avoir des comportements dangereux pour se sentir encore plus vivant. Et donc, en fait, il explique cela dans La Belle au bois dormant comme le prince charmant qui va donc franchir les ronces pour aller atteindre sa bien-aimée. Cependant, on remarque que Bettelheim suscite de nombreuses controverses. En effet, on pourrait émettre des réserves sur ces théories, puisque, étant de la psychanalyse par nature, ce sont donc des interprétations. Certains disent que Bettelheim transforme les contes de fées, qu'il détruit l'enfance, qu'il va trop loin. Aussi, Bettelheim a une analyse unique des contes de fées, qui souvent fait l'objet de débats, de critiques. Pour vous donner un exemple, pour le conte du Petit Chaperon Rouge, selon Bettelheim, le Petit Chaperon Rouge symbolise la sexualité prématurée de la fillette. Elle rencontre un homme sous ses deux aspects. Le loup, qui est le séducteur, et le chasseur, qui est le protecteur. Néanmoins, pour d'autres, le loup est là pour punir la fillette d'avoir perdu sa virginité, symbolisée par le panier. D'autres encore affirment que le Petit Chaperon Rouge est une histoire de transmission de féminité entre la mère, la grand-mère et la petite fille. Enfin, certains voient dans le Petit Chaperon Rouge une petite fille dévorée qui représente le fantasme homosexuel de Perrault de coucher avec son père. Autrement dit, les interprétations sont singulières, uniques, et donc peuvent être remises en question, y compris celle de Bettelheim.
Dans la relecture des contes, nous pouvons aborder la présence de situations humaines complexes et même la dimension morale présente chez Perrault. Nous allons maintenant passer à la lecture de Barbe Bleue, enfin d'un extrait de Barbe Bleue, par Maureen.
Elle fut si pressée de sa curiosité
que, sans considérer qu'il était malhonnête de quitter sa compagnie, elle y descendit par un petit escalier dérobé, et avec tant de précipitation qu'elle pensa se rompre le cou 2 ou 3 fois. Étant arrivée à la porte du cabinet, elle s'y arrêta quelque temps, songeant à la défense que son mari lui avait faite et considérant qu'il pourrait lui arriver malheur d'avoir été désobéissante. Mais la tentation était si forte qu'elle ne put la surmonter. Elle prit donc la petite clé et ouvrit en tremblant la porte du cabinet. D'abord, elle ne vit rien, parce que les fenêtres étaient fermées. Après quelques moments, elle commença à voir que le plancher était tout couvert de sang caillé, et que dans ce sang se miraient les corps de plusieurs femmes mortes et attachées le long des murs. C'étaient toutes les femmes que la Barbe Bleue avait épousées et qu'il avait égorgées l'une après l'autre. Elle pensa mourir de peur, et la clé du cabinet qu'elle venait de retirer de la serrure lui tomba de la main.
Honnêtement, je trouve, enfin, j'adore vraiment ce conte, c'est l'un de mes préférés, je pense. Et il y a une chose qui m'a beaucoup marquée, c'est que j'ai découvert il n'y a pas longtemps que ça, c'était l'une des versions, mais qu'il en existait beaucoup d'autres, dans lesquelles, dans cette version-là, en l'occurrence, qui est de Perrault, il y a toute une morale derrière avec la curiosité, qui est un vilain défaut. Mais ici, surtout, la femme de Barbe Bleue, qui est en l'occurrence non précisée, on ne sait pas qui c'est juste une femme comme une autre, elle est aidée par ses frères à la fin, alors que dans d'autres versions, elle meurt. Elle avait 2 autres sœurs, donc la seconde sœur épouse Barbe Bleue, meurt aussi. La troisième sœur épouse Barbe Bleue, et cette fois-ci, elle a la présence d'esprit de poser la clé avant de rentrer, et donc elle voit tous les cadavres. Et c'est à ce moment-là qu'elle va, par un tour de magie un peu farfelu, ressusciter ses sœurs et réussir à presque exterminer, je crois, Barbe Bleue avec le 2 de ses frères. Et moi, je trouve ça très intéressant, cette réécriture qui est faite des contes au fur et à mesure, avec l'évolution du message selon l'intention des auteurs, au final.
Moi, j'aimerais bien rebondir, notamment sur Barbe Bleue, par rapport au fait que on va pouvoir facilement aussi utiliser des personnages. Par exemple, dans Barbe Bleue, dans la version de Perrault, il me semble, à la fin du conte, on a 2 frères qui arrivent. En fait, on n'a jamais entendu parler de ces frères tout le long du conte. Et à la fin, ils arrivent comme ça. La sœur était sans... Il y a même la... Donc la première sœur qui est mariée, qui voit Barbe Bleue arriver, qui le retient. Il y en a une qui est sur le palier qui arrive. Comment est-ce que cette deuxième sœur est arrivée sur le palier, on ne sait pas. Les frères qui arrivent, qu'on n'en a jamais entendu parler. Dans les contes, on a aussi vraiment une utilisation des personnages qui est vraiment sans aucune limite. On a aussi l'utilisation des enfants, donc, comme par exemple dans Réponse. On sait qu'une fois que donc le prince est rendu aveugle et que Réponse est envoyée dans le désert, on sait qu'elle accouche de jumeaux. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'elle va élever ses jumeaux dans la misère. Et une fois que le prince finit par retrouver Réponse, et bah, les jumeaux disparaissent. Au mariage, on en parle. Une fois qu'ils se marient, qu'ils retournent au palais, on ne parle absolument plus de ces enfants-là. Donc en fait, il y a vraiment une utilisation aussi des personnages. Ils arrivent, ils repartent, même des figures enfantines qui sont là et qui ne sont plus là, etc.
Donc Chloé va maintenant nous parler de la représentation de la culture du viol dans les contes.
Même s'ils n'ont jamais cessé d'être lus depuis le XVIIe siècle, depuis des années, à chaque enfant, on raconte les classiques tels que Cendrillon, Blanche-Neige, La Belle au bois dormant. Lorsqu'ils sont lus, racontés, représentés au cinéma ou au théâtre, ils ont pour objet l'étalage de la richesse des festivités, de l'homme courageux qui sauve sa princesse, et donc bien sûr, l'amour. D'ailleurs, parlons-en d'amour. Dans la quasi-totalité des contes, on raconte l'histoire d'une jeune fille qui vit une ascension sociale fulgurante lorsqu'elle découvre l'amour. C'est aujourd'hui devenu un stéréotype dont rêvent encore de nombreuses jeunes filles. Mais est-ce que les contes se limitent à « ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants » ? Surtout si l'on sait que dans les anciennes versions des contes, cette phrase mythique n'existait même pas. Selon un article de chercheurs contemporains, les contes seraient des agents d'une socialisation dont le but viserait à faire intérioriser par les garçons et les filles des normes hétéronormatives destinées à favoriser la perpétuation de la domination masculine sur la société. Autrement dit, dès leur plus jeune âge, on conforte les enfants dans l'idée d'un monde patriarcal, où les filles sont douces, dociles, soumises et gentilles, alors que les garçons sont aventuriers, courageux, mais surtout de futurs souverains. Les premières versions des contes étaient en réalité des outils pour convaincre les jeunes filles de se marier en leur donnant le rêve d'un futur semblable à celui des contes. En 2018, une universitaire indienne estimait que les contes étaient un outil d'endoctrinement pour les enfants, mais aussi un outil utilisé pour mettre en avant des rôles sexués. Mais les contes que nous connaissons ne nous enseignent pas seulement le monde patriarcal. Ils amènent également une vision du consentement en accord avec le XVIIe siècle, et donc ce que l'on pourrait aujourd'hui décrire comme une certaine culture du viol. Dès 1697, dans une certaine démarche éducative, Perrault ajoute des morales à ses contes, des morales qui, 300 ans plus tard, sont complètement immorales.
Oui, tu as raison. J'en ai une sous les yeux d'ailleurs. Voici ce que dit la morale du petit chaperon rouge. On voit ici que les jeunes filles belles, bien faites et gentilles font très mal d'écouter toutes sortes de gens et que ce n'est pas grand-chose étrange s'il en est tant que le loup mange. Ici, Perrault promeut ce que les courants féministes actuels considèrent notamment comme étant une certaine culture du viol.
En effet, Elisa, et comme nous le rappelle notamment Hermeline Pernoud dans sa thèse de doctorat, même les réécritures des contes continuent de mettre la femme dans une position inférieure à l'homme au lieu de favoriser sa liberté. De nombreux contes et réécritures font de la femme un être soumis. Comme par exemple dans La Belle au bois dormant, vous savez la célèbre scène où le prince réveille la princesse par un baiser. Cette scène est une adaptation de la version des frères Grimm. Mais dans la version 200 ans plus ancienne du conteur italien Gambattista Basile, le prince parvient bien dans le château. Mais lorsqu'il voit notre princesse endormie, le texte nous apprend autre chose. Je cite. Appâté par les apathiques appâts de la belle, il la souleva dans ses bras et la porta jusqu'à son lit, où il butina cette fleur d'amour. Fin de citation. 9 mois plus tard, la belle au bois dormant accouche de jumeaux, et en tétant son doigt, l'un des bébés lui retire son écharde et la princesse se réveille. Si une femme est endormie, peut-elle consentir à un rapport sexuel, à tomber enceinte et même à devenir mère? Par ailleurs, Disney est souvent accusé de maintenir la culture du viol, notamment dans la scène des baisers. Même s'il modifie légèrement l'histoire de la belle au bois dormant pour la rendre tout publique, il modifie également celle de Blanche-Neige pour la rendre cette fois-ci plus romantique. Je vous explique. Dans la première version, lorsque Blanche-Neige est dans le cercueil de verre, un groupe de valets vient la déplacer et lors du déplacement, l'un d'eux trébuche, faisant tomber le cercueil. Le choc fait ressortir le bout de pomme coincé dans la gorge de Blanche-Neige. Dans la version Disney, c'est un baiser qui réveille la princesse. Comme vous pouvez le voir, les contes qui nous sont racontés dès l'enfance nous transmettent inconsciemment une idéologie patriarcale et des valeurs qui sont pourtant aujourd'hui condamnées par nos sociétés. Les adaptations de ces films par des géants du cinéma tels que Walt Disney continuent de transmettre ces normes et valeurs. Aujourd'hui, on commence à se rendre compte que les valeurs qui sont transmises aux générations futures dans les contes ne sont pas en adéquation avec nos valeurs actuelles. Mais malgré cette prise de conscience, il reste encore du chemin à faire.
Et si nous parlons maintenant de, justement pour rebondir à la chronique de Chloé, donc à l'adaptation au cinéma par Walt Disney des contes. Est-ce que quelqu'un aimerait réagir?
Ne vous sauvez pas. Je ne vous ferai pas de mal. Je suis vraiment désolée. Je ne voulais pas vous faire peur. Mais j'ai eu de telles émotions. Si vous saviez tout ce qui m'est arrivé. Oh, je ne suis d'ailleurs pas fière de ma conduite. Que faites-vous quand tout va mal? Vous chantez.
Alors, pour vous remettre un petit peu dans le contexte, mais je me doute que vous avez deviné, il s'agit de la célèbre scène où Blanche-Neige se retrouve dans la forêt et se met donc à discuter joyeusement avec de petits oiseaux.
Cette scène paraît extrêmement sucrée, extrêmement légère, alors qu'il ne faut pas oublier que, quelques instants auparavant, la reine, sa belle-mère, avait commandité à un chasseur de tuer Blanche-Neige pour récupérer son cœur et d'autres organes un peu divers. Je pense que c'est un peu contradictoire, surtout qu'en effet, elle parle à des oiseaux.
Et puis ici, il y a aussi une représentation d'une princesse qui est totalement naïve, qui discute avec des animaux, alors que ce n'est dans la dans la réalité, ce n'est pas possible. Et puis surtout dans la conte originaux, ce n'est pas ce qui se passe. Disney là, il embellit, il enrichit vraiment l'idée un petit peu enfantine et accessible aux enfants dès le plus jeune âge dans ses films.
Et puis de même, Blanche-Neige, à la fin, on la voit monter dans un beau carrosse sur un chemin qui serpente un peu vers un château tout blanc, un peu dans les nuages. Et au final, cela, de même, c'est très sucré, très beau, très, très joyeux. Et donc, beaucoup prennent cette allégorie du château blanc comme étant finalement une destination finale, peut-être une mort, alors que c'est très sucré, donc c'est un peu détourné.
Moi, je serais allée à l'opposé, justement. Ici, on a vu donc une représentation très naïve, très sucrée d'une adaptation d'un conte de fées. Mais à l'inverse, des fois, les adaptations se font de manière beaucoup plus érotique et révèlent un petit peu ce que les auteurs avaient mis en avant dès le XVIIe siècle, avec notamment le dessin animé Tex Avery, dans lequel on voit le petit chaperon rouge qui est très sexualisé. Red Hot Riding Hood!
Daddy, I want a diamond ring, I want some bracelets and everything. Daddy, you better get the best for me.
Dans l'extrait que vous venez d'écouter, donc, c'est le petit chaperon rouge qui chante dans un cabaret avec un simple juste corps rouge qu'il voit donc quasiment toutes les parties de son corps. Et donc en face, et donc en tant que spectateur, il y a un loup qui est devenu fou. Ses yeux sont sortis de ses orbites, il siffle, etc. Donc ici, on voit vraiment une mise en avant de ce que Perrault insinue dans ses contes 300 ans plus tôt. Et aussi donc la sexualisation des héros des contes.
Des héros des contes. Tu dis que Perrault insinue une certaine sexualité dans ses contes. Pourtant, des années, des siècles auparavant, la sexualité n'est pas insinuée, elle est clairement dévoilée. Pour revenir à l'auteur dont je parlais précédemment, Basile, au XVIe siècle, qui est italien, il a écrit un conte qui s'appelle Les vieilles écorchées. Et en l'occurrence, c'est juste une scène de sexe au final. C'est une vieille qui finit par coucher avec le roi dans la nuit, parce qu'il ne faut pas qu'il voit que c'est une vieille, qui, quand il le découvre, se fait jeter par la fenêtre, littéralement, que des fées rajeunissent, on ne sait pas par quel miracle, et qui finalement épouse le roi qui l'a rejeté par la fenêtre. Donc c'est quand même très explicite.
Ouais, et j'aimerais juste rebondir sur ce même conte. C'est de ce conte aussi qui est un petit peu apparu l'expression « il faut souffrir pour être belle », puisque cette vieille qui a rajeuni avait également une sœur qui, elle aussi, était complètement flétrie, laide par la vieillesse, et qui, au final, a demandé à un coiffeur de la raboter pour devenir encore plus belle. Un barbier, excuse-moi. Pour devenir encore plus belle, et a conclu un petit peu... le conte se conclut par un gaz, mais avant cela, elle dira la phrase « il faut souffrir pour être belle ».
C'est le barbier qui dit qu'il faut souffrir pour être belle, parce qu'elle est là en train de crier de souffrance.
Est-ce que Maureen, maintenant, tu voudrais nous parler des contes interdits ?
Alors, nous venons de vous parler des contes qui ne sont pas tout à fait tout roses et qui sont passés par plein d'auteurs différents avant d'arriver à nos oreilles ou à notre vue. Mais à présent, moi je vais vous expliquer un peu ce que les contes interdits. Donc c'est un ensemble de 40 livres, donc une série de livres écrits par 15 auteurs différents québécois. Et ils vont réécrire des contes féeriques, donc comme ce qu'on parle depuis tout à l'heure, Cendrillon, La Belle au bois dormant, Peau d'âne et bien d'autres... ainsi que des histoires populaires comme La Bête du Gévaudan, Jacques l'Éventreur, de manière... un peu plus, même extrêmement horrifique et dépravé. Donc, c'est-à-dire que ces livres vont faire peur, vont avoir beaucoup de torture, vont sexualiser mais énormément chacun des personnages, que ce soit des enfants, des adultes ou même des objets. Oui, des objets sexualisés, des objets. Et pour ma part, alors j'ai lu un livre, donc Peter Pan. Donc au départ, je pensais l'apprécier parce que j'ai toujours aimé la réécriture, enfin des contes différemment. Mais pour cette fois, c'est pas du tout un livre que je recommanderais. Par rapport à la psychologie que tous les personnages endurent, mais c'est de la torture, mais que ce soit des enfants de 3 ans qui n'ont presque pas la parole encore, ou des personnes qui ont déjà un certain âge, 45 ans, 50 ans, etc. La torture qu'ils subissent sont très, très dures et prouvées. Donc, enfin, voilà. Et pas un seul n'en échappe.
Là, tu parles d'un aspect un peu horrifique des contes. Tu dis que ça a été retravaillé. Personnellement, je pense que ça n'a pas été retravaillé, ça a été retrouvé, ça a été remis en lumière. Finalement, par exemple, si on prend l'exemple de Cendrillon, cet aspect horrifique, il existait déjà. La version où Cendrillon s'appelle Zezola, sa première belle-mère est très gentille en réalité. Et c'est sa femme de chambre qui lui insuffle l'idée de tuer sa belle-mère, ce qu'elle fera un peu sans hésitation en la décapitant avec le couvercle d'une malle. Et c'est cette nouvelle belle-mère qui est méchante, c'est cette nouvelle belle-mère qui est l'élément déclencheur et qui finalement va créer toutes les péripéties qu'on connaît. Et pour le coup, la situation finale, c'est après le mariage, Zezola, Cendrillon, décide de crever les yeux de ses belles-sœurs, et ses belles-sœurs se coupent les pieds pour tenter de rentrer dans la pantoufle. Donc je pense que c'est déjà assez horrifique comme ça.
Oui, mais en fait, comparé au livre des contes interdits, je peux comprendre l'aspect de Cendrillon et de la plupart des contes qui ont déjà un côté quelque peu horrifique, mais la réécriture des contes est beaucoup plus poussée, voire extrême. Par exemple, Peter Pan, l'exemple tout bête, on va faire amener la drogue pour le mettre dans un univers qui nous rapproche au plus près de celui-là. Donc vraiment de le mettre dans nos époques, qui fait que l'histoire nous met à la fois trop dedans et avec une certaine distance, mais pas spécialement bien.
Donc si j'ai bien compris, ils s'opposent complètement au Disney, ils sont absolument antinomiques des Disney, des films, des livres qu'on connaît, et c'est ça qui les rend un peu dérangeants.
Ils s'opposent, mais à la fois ils essaient toujours de raccrocher un petit peu des films et des premiers contes.
Donc, en parlant de réécriture, selon vous, les contes sont-ils toujours d'actualité ?
Cette question est vraiment très très large, mais j'ai essayé d'aborder un aspect, puis on en reparlera après, on évoluera. Moi, je pense que, personnellement, je pense que les contes sont toujours d'actualité, puisque justement, on en parle ce soir même. C'est forcément qu'il y a quelque chose à en dire, quelque chose à en tirer. Après, il y a beaucoup de stéréotypes, d'idées reçues pour les contes. On va avoir les adultes qui vont dire « c'est plus de mon âge », on va avoir les jeunes aujourd'hui qui, malgré tout ce qu'on dit, forcément avec les écrans, etc., qui en lisent moins, qui ont moins cette culture, mais même nous, on s'en rend compte, quand on dit conte, on va penser à Blanche-Neige, La Belle au bois dormant, mais des classiques qui, au final, Peau d'âne, Barbe bleue, sont beaucoup plus souvent oubliés. Donc après, je pense que le futur des contes dépend vraiment aussi de s'ils sont remis en avant, si on continue à en parler justement, et si on continue à justement en tirer quelque chose de bénéfique pour nous.
Oui, moi je pense qu'ils sont toujours d'actualité parce que les enfants vont toujours lire des contes un peu en étant innocents, donc sans vraiment en tirer les conclusions que nous on en tire là. Et justement, nous, on peut les relire avec un regard davantage critique, en se disant que finalement, ça veut vraiment pas dire ce qu'on pense, etc. Et donc, je pense que pour toutes les générations, on peut lire et relire des contes en ayant un regard complètement différent, comme on est en train de le faire.
Personnellement, je rejoins totalement les filles là-dessus. Les contes sont évidemment toujours d'actualité. Personnellement, j'ai déjà prévu d'en offrir à mes frères à Noël. Et ils ont lu tous ceux qui sont chez mes grands-parents. Donc, je pense que c'est aussi ça permet aussi d'un certain mélange intergénérationnel entre un moment d'échange et autre. Et puis, les contes dont on parle là, ils ont été écrits, ils ont été imaginés il y a des siècles maintenant, mais il y en a toujours de nouveaux qui sont créés perpétuellement. Andersen, par exemple, en a écrit de nouveaux de toutes pièces, alors pourquoi ça ne serait pas le cas aujourd'hui ?
Alors, moi, je pense quand même qu'il faudrait apporter une nuance sur le fait que les contes sont toujours d'actualité, puisque je pense que potentiellement, ils se retrouvent transformés et ils sont peut-être amenés à être remplacés aussi par d'autres choses, potentiellement avec des nouveaux formats de contes. Donc, comme tu disais, Elisa, les contes sont réécrits. Donc, au final, le conte réécrit en 2025, par exemple, Blanche-Neige 2025 n'aura rien à voir avec Blanche-Neige du XVIe siècle. Et donc ainsi, peut-être que les contes, au final, quand on lira dans 100 ans, seront complètement différents. Donc auront été remplacés, pas forcément de manière négative, mais c'est aussi ce qui fait qu'un conte est unique, c'est qu'il évolue, il n'est pas figé dans le temps. Chaque personne, même quand il s'était transmis de manière orale ou écrite, chaque personne y ajoute quelque chose de différent. On voit bien qu'un conte a 3-4 versions différentes.
Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous, parce que même maintenant, on peut retrouver les livres réécrits en mettant les personnages, par exemple les princesses comme Cendrillon, de manière rebelle, courageuse, forte, encore plus, enfin, vraiment mis comme une personne, comme le livre De Verre et de Sang de Rena Dolce, ou encore les livres qui sont écrits Disney, mais en parlant des méchants cette fois-ci.
On peut donc en conclure que les contes ne sont pas qu'une simple histoire qui est racontée aux enfants. En effet, les contes de fées sont emplis de messages, de valeurs transmises. Et ils sont également interprétés selon chacun de manière assez singulière. Depuis plusieurs décennies, les géants du cinéma tels que Walt Disney reprennent ces contes, les modifient et les rendent souvent plus accessibles aux enfants dans le but de faire du profit. Mais derrière ces histoires enfantines, les contes sont toujours remplis de sous-entendus et véhiculent une morale que les enfants intériorise dès le plus jeune âge. Mais cependant, cette morale qui est transmise est parfois à l'encontre des valeurs que nous voulons transmettre à nos enfants. Il est donc nécessaire de toujours parler des contes et de continuer à en exploiter le meilleur.
Il était une fois, en plein hiver, quand les flocons descendaient du ciel comme des plumes et du duvet, une reine qui était assise et posée devant une fenêtre qui avait un encadrement en bois d'ébène.
Elle approcha en tremblant et en admirant et se mit à genoux auprès d'elle. Alors, quand la fin de l'enchantement était venue, la princesse s'éveilla et, le regardant avec des yeux plus tendres qu'une première vue semblait le permettre.
Le mère grand que vous avez devant moi, c'est pour mieux t'embrasser, ma fille. Ma mère grand que vous avez de grandes jambes, c'est pour mieux courir, mon enfant.
On la mena chez le jeune prince, parée comme elle était, et, peu de jours après, il l'épousa. Cendrillon, qui était bonne.
Marque-page, l'émission qui interroge votre rapport à la lecture.